J'ai l'honneur et la joie de présenter notre conférencière de cet après-midi, Madame Amal Maroghi. Madame Amal Maroghi est née en Irak, dans le nord de l'Irak, dans une famille de la minorité chrétienne où l'on parlait arabe dans la rue et à la maison araméen, la langue du Christ, ou évidemment ce qu'elle était devenue après 2000 ans. Sa famille s'est installée en Belgique pendant son adolescence. Elle y fit des études à l'université de Gand, en langue néerlandaise donc, jusqu'au doctorat en langues et cultures orientales. Madame Maroghi est également titulaire d'un Master of Studies en innovation sociale de la Judge Business School de l'université de Cambridge. Toujours à Cambridge, elle a été chercheure affiliée en études néo-araméennes. Elle a enseigné l'arabe, entre autres aux universités de Cambridge, Leuven, et Gand. Elle a également été directrice des études en études asiatiques et moyen-orientales au King's College de Londres. Madame Maroghi a lancé et organisé les premières et deuxièmes séries de conférences sur les fondements de la linguistique arabe à Cambridge. Elle a publié sur ce sujet livres et articles, et en particulier une monographie sur Sibawai, le persan qui a écrit le premier traité exhaustif de grammaire arabe. Madame Maroghi enseigne également le néerlandais. Elle est également coach praticienne, senior accréditée et médiatrice interculturelle. Elle est maître de conférences affiliée à l'Université de Cambridge et est également directrice fondatrice d'une entreprise sociale et de deux associations caritatives, l'une étant le British Aradin Charitable Trust, dont elle va nous parler, et l'autre, l'European Atlanta Institute for Intercultural Excellence. La présence médiatique de Madame Maroghi a englobé la prestation de conférences dans le monde entier, y compris la Société asiatique à Hong Kong et l'Institut Hudson à Washington, D.C. Elle est apparue dans The Times et a également été interviewée par BBC World News et BBC Radio 4. Elle s'exprime aujourd'hui en langue française et elle m'a confié tout à l'heure pour la première fois dans sa carrière académique. Je vous donne donc la parole.
Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur d'être ici devant vous, dans ces bâtiments historiques, et aussi un grand privilège de réfléchir avec un public aussi éminent sur la façon dont un petit organisme de bienfaisance tel que Aradin Charitable Trust a décidé de mettre au cœur de son action caritative, même en temps de guerre, les langues et le patrimoine culturel en danger de communautés historiques. Pourquoi sauver le bien culturel? La détermination d'Aradin a concentré son attention. Ça va comme ça? La détermination d'Aradin a concentré son attention sur la sauvegarde de l'héritage chrétien du Moyen-Orient. Ne faisait-il pas fi du danger extrême que représentaient les terroristes pour la survie des gardiens de l'héritage que Aradin tentait de sauver? Certes, l'art et la culture ne sont pas les préoccupations premières en temps de guerre, mais sont-ils des occupations que semblent pouvoir attendre le retour de la paix? Ces réflexions ne sont pas nouvelles. En 1939, C.S. Lewis a tenté de répondre aux mêmes interrogations dans ce qu'il appelait « Learning in Wartime », suivant lesquelles elle met en relief le fait que, d'une manière générale, l'être humain n'attend pas que les circonstances soient favorables pour s'instruire et rechercher la beauté. Car, je cite, « la culture humaine a toujours existé à l'ombre de quelque chose d'infiniment plus important qu'elle-même. » Le fin insatiable de l'humanité pour le bien et le beau est la raison pour lesquels Aradin a refusé de priver les réfugiés et les personnes déplacées de ce qui constitue leur humanité. C'est pourquoi il a passé d'une activité qui consiste à faire la charité à un état qui consiste à être charitable dans le vrai sens du terme. Mais qu'est-ce que c'est la charité? Cette question présente un véritable défi, compte tenu de la diversité de structures organisationnelles et déterminants, qu'elles soient géopolitiques, financières ou socioculturelles. Sans parler de tous les types d'acteurs qui sont entrés dans l'arène caritative. Explorer toutes ces connexions en détail, aussi nécessaire soit-il, nous mènera trop loin. Au lieu de ça, de cela, nous devrons nous contenter de donner une réponse à la question suivante. Comment est-il possible que tous les grands efforts humanitaires aient échoué jusqu'à présent à entamer la liste de défis considérables auxquels sont confrontées les victimes de la guerre et de la violence? La crise des réfugiés en Europe a pesé le tableau et a soulevé des questions sur une société qui dérive de plus en plus vers les extrêmes. Certes, les troubles politiques et les bouleversements sociaux ne sont pas nouveaux en Europe, mais la crise actuelle des réfugiés s'est maintenant transformée en un dilemme épineux que personne n'aurait soupçonné il y a quelques années, conduisant une grande partie de la population à abandonner ses plus chers idéaux et principes. Peut-être que nos réponses à cette question nous aidera à comprendre pourquoi la situation actuelle est la conséquence des négligences répétées qui, je dirais, ont été causées par l'échec délibérément oublié des interventions humanitaires prolongées par les organisations à petite et à grande échelle. Comme en témoignent l'opinion et certains titres de journaux, les organisations caritatives font l'objet d'une surveillance accrue. En fait, les événements les plus récents en Afghanistan n'ont pas vraiment été à l'honneur du nombre infini d'organisations caritatives, d'organisations civiques et de sociétés qui opèrent depuis au moins 2 décennies. C'est une évidence que chacun de nous est l'héros de sa propre histoire. J'ai, pour ma part, décidé à un moment donné dans ma carrière qu'il était temps de s'engager pour un monde meilleur. Mais ne serait-ce pas le fruit de l'emportement d'un idéaliste? La crédibilité nécessite plus que l'expérience et l'auto-examen. Elle a besoin de tests décisifs, d'un cadre théorique solide et d'un regard académique pour déterminer si nos découvertes et conclusions sont le résultat d'une pure subjectivité émotionnelle ou seulement le point émergé de l'iceberg. C'est exactement la raison pour laquelle j'ai décidé en 2018 à retourner étudier à l'université afin de confronter et de faire examiner mon expérience et mes conclusions. Pour ordonner mon propos, je vous propose d'examiner dans le premier temps brièvement le mandat de travail caritatif pionnière de Aradin, du point de vue de la préservation de langue et du patrimoine culturel en danger. Je passerai ensuite à l'examen de 3 défis qui ont conduit un tournant dans la compréhension de Aradin de sa mission. Il s'agit de 3 concepts. 2 que j'ai forgés moi-même, celui d'impérialisme caritatif et pop-up crisis experts, ou d'experts en crise passagère autoproclamée. Enfin, le concept utilisé par le philosophe américain John Dewey d'assertibilité garantie. Je terminerai par la prise de conscience progressive par Aradin en tant qu'acteur de la vitalité transcendantale de la beauté, de la mémoire et de la spécificité féminine. Il me semble que le regard que nous portons sur le présent peut nous donner le clé permettant de passer de nombreux freins interculturels et sociétaux. Finalement, la préservation du patrimoine est moins liée aux choses qu'à la personne capable de ressentir la beauté, de la communiquer et de la sauvegarder pour les générations futures. Aradon Charitable Trust, the Trust of Wild Oiseau. Aradon Charitable Trust était une organisation caritative enregistrée au Royaume-Uni, fondée à Cambridge en 2012, dans le but d'aider les communautés minoritaires historiques du Moyen-Orient à préserver leur langue et leur patrimoine en danger. Pour atteindre cet objectif, Aradon a fourni à ses communautés les outils nécessaires pour promouvoir une culture de la paix à travers l'éducation, l'innovation sociale et la discussion éclairée. Pour certains, Aradon était le fruit de l'enthousiasme d'un universitaire enfermé dans sa tour d'ivoire. Tandis que pour le plus compréhensif, il s'agissait plus de la course folle d'une linguiste cherchant pour la modique somme de 5030 livres à sauver un patrimoine culturel en danger, lutter contre les préjugés et promouvoir la paix. Ne fallait-il pas, comme cela nous a été opposé, consacrer le don à la fourniture de biens de première nécessité, à la nourriture, au logement, plutôt que de s'occuper des vieux livres et des vieilles églises? Mais le charisme d'Aradon a été à mettre en valeur l'importance de l'héritage culturel et son prix, au même titre que de biens purement matériels. Les circonstances ont cependant rapidement donné du sens à la mission d'Aradon. En 2014, le monde a pris conscience du nettoyage ethnique et culturel à grande échelle perpétré par le soi, disons, l'État islamique. De manière soudaine, Aradon et son fondateur ont été jetés sous le feu des projecteurs, si que c'était vrai être à la fois une bénédiction, comme je le montre, et une malédiction. Outre les avantages de la reconnaissance et de la publicité, il avait une énorme pression externe sur la petite et très jeune association caritative et son fondateur pour qu'ils s'intègrent et prennent leur place. Tout en jouissant d'une solide réputation d'organisation digne de confiance, avec un vaste réseau local, national et international, et une expérience de terrain inégalée, combiné à une expertise académique. Il était parvenu à rester fidèle à ses principes fondateurs, à garder à la fois une expérience de terrain et un sens de concret, et le souci de bien commun de communautés locales et déplacées internes auprès lesquelles il s'est investi, et qui ont toujours été traités comme des acteurs de leur propre destin. En fait, l'une des plus grandes fiertés d'Aradon a été de contribuer à aider les habitants d'un village à se libérer du joug de leurs dirigeants corrompus et leurs chefs après 25 ans d'esclavage économique et de domination. Essayer d'aider les communautés historiques en danger à protéger leur patrimoine culturel, matériel et immatériel ne fut pas simple. Il a fallu apprendre rapidement à naviguer à vue dans la politique identitaire et sectorielle et à éviter que Aradon soit associé à un groupe particulier ou englobé dans l'un des grandes organisations opérant sur le terrain. Il n'avait pratiquement pas de place pour la collaboration dans un environnement caractérisé par une concurrence acharnée. Après 4 ans intensifs de contacts directs et régulier avec de diverses communautés historiques du Moyen-Orient, Aradon a été confronté à 2 difficultés majeures. La corruption et ce que j'appellerais l'impérialisme caritatif. L'échec du secteur caritatif en général a atténué les effets dévastateurs de la guerre et des vagues successives de réfugiés est lié à ces 2 entraves. Je montrerai dans la section suivante comment ces phénomènes interconnectés sont théorisés et justifiés par des experts éphémères autoproclamés de la crise et leurs promoteurs. L'impérialisme caritatif. Le premier problème n'était pas tant lié au fait qu'il existe de la corruption dans le pays, mais au fait que la charité elle-même a généré de la corruption, devenant la bouée de sauvetage des personnes les plus corrompues au niveau local. Ce fut le premier leçon. La modèle caritatif et son cadre n'étaient plus viables car elle engendrait de graves problèmes tels que l'exclusion, l'injustice, voire le terrorisme, qui est sans conteste la conséquence la plus malfaisante de la corruption. La prise de conscience du mal chronique dont souffre le modèle caritatif a conduit à Radin à arrêter ses activités en octobre 2020. Cette affirmation peut soulever une objection légitime. C'est certainement le pouvoir qui corrompt, pas la charité. Mettons de côté quelques tables dans l'argumentation, je dirais que tout doute s'est envolé lorsque j'ai écouté le livre audio de Dostoïevski, Le démon. Mon expérience rejoignait la vision de Dostoïevski. Dans un passage poignant, le riche protagoniste de Dostoïevski, Varvara Petrovna, décrit magistralement la nature insaisissable de la charité et déclare de manière mémorable que la charité corrompt aussi bien celui que donne que celui que prend. Voilà un extrait de l'œuvre. Je cite. Et quoi ? Et que me disiez-vous, par exemple, de l'aumône ? Pourtant, le plaisir de faire la charité est un plaisir orgueilleux et immoral. Le riche le tire de sa fortune et de la comparaison qu'il a établie entre son importance et l'insignifiance de pauvres. Le monde déprave à la fois et le bienfaiteur et l'obligé. De plus, elle n'atteint pas son but, car elle ne fait que favoriser les mendacités. Les paresseux qui ne veulent pas travailler se rassemblent autour du genre charitable, comme le joueur qui espère gagner se rassemble autour du tapis vert. Et cependant, les misérables 4 sous qu'on leur jette ne se lâchent pas le centième partie de leur misère. Ce mot adressé à un personnage qui nous intéresse particulièrement dans le cadre de notre réflexion, à savoir Stevan Trofimović, dont la relation avec Varvara Petrovna reflète de manière frappante ce dont j'étais témoin. Varvara Petrovna est une riche veuve ayant une position sociale importante sur le plan social et politique. Sa charité envers Stefan Trofimović ne se limite pas seulement à l'aide financièrement, mais est habilement utilisée pour le modeler à son image, de son intervention jusqu'à dans le choix de sa garde-robe. Son véritable engagement se reflète dans l'organisation et le parrainage de réunions locales hebdomadaires auxquelles elle doit participer. Quant à Stefan Trofimović, elle n'est tentée que trop à entretenir cette amitié à tout prix. Et l'intérêt de la vie sociale à laquelle elle avait été exposée était trop précieux pour être sacrifié. Nous devons également garder à l'esprit le rôle dangereux joué involontairement par Stefan Trofimović en favorisant le développement des forces nihilistes et leurs conséquences catastrophiques. Ici, nous avons les 3 protagonistes présents dans toute structure impérialiste et caritative où l'altruisme est transformé en autopréservance. Préservation. Tout d'abord, Nous avons le riche bienfaiteur qui soigne sa réputation de capitaliste socialement responsable. Ensuite, nous rencontrons un expert autoproclamé que confonde la combinaison de tourisme de guerre et d'un fan club avec une expertise. Enfin, nous avons un public désinformé ou mal informé à la recherche des histoires qui correspondent à l'image qu'il s'est fait de la réalité. Alors, qu'est-ce que l'impérialisme caritatif? Il présente deux caractéristiques distinctives. Premièrement, elle donne la priorité au fait d'aider plutôt qu'à l'aide elle-même. La victimisation est encouragée. Les victimes sont à la périphérie, jamais au cœur de leur initiative. C'est pourquoi les organisations d'aide sont de moins en moins perçues comme des organisations bienfaisantes, mais plus comme des agents étrangers, coloniaux ou politiques ayant des intérêts particuliers. Et je cite ici Tracy Stott, 2017. Deuxièmement, l'impérialisme caritatif a adopté l'urgence permanente comme stratégie par défaut pour la pertinence et la durabilité. Cette stratégie a abouti à une attitude bien ancrée à fait à au lieu de fait avec ou fait par. Et je cite ici Stott et Tracy 2018. La charité au sens strict du terme n'est alors qu'un moyen pour parvenir à une fin. Cela nécessite une recherche continue de groupes ou de communautés de victimes réelles ou présumées pour les prendre en charge dans leur meilleur intérêt. En réalité, l'impérialisme caritatif est plus meurtrier qu'il n'y paraît, car la charité n'est donnée qu'à ceux qui osent s'abaisser et la ramasser. C'est pourquoi il maintient avec empressement la communauté qu'il cible en tant que victime persistante et le paralyse involontairement. Avec des experts en crise autoproclamés affiliés, un clergé collaboratif et des dirigeantes aux élites locaux, l'impérialiste caritatif sont devenus le gardien de facto de communautés qu'ils ont maintenant infantilisées. Les experts autoproclamés. Tournons notre regard maintenant vers les experts de crise autoproclamés. Ce sont surtout des individus opportunistes et respectables, généralement bien éduqués, toujours à la recherche de la prochaine connexion utile. Elles prospèrent lors des crises et utilisent les médias sociaux pour acquérir un sentiment d'épanouissement et d'une reconnaissance publique en tant que héros. Un expert en crise autoproclamée est spécialiste dans le tourisme de guerre, qui consiste en des voyages réguliers dans des zones de conflit sûres, quelques histoires plausibles et des images ou des vidéos déchirantes pour émouvoir son public et sceller son autorité. Le tourisme de guerre permet aux experts de crise autoproclamés de devenir l'héros au service de communautés persécutées en permanence. Leur succès ultime se mesure à leur réussite financière et leur capacité à faire quelques équipes avec un ou plusieurs locaux prêts à leur dire ce qu'ils souhaitent entendre et ainsi asseoir leur statut d'expert incontestable dans le domaine. Nous aimons toutes les histoires. Les organisations d'aide et les experts en crise humanitaire s'épanouissent grâce aux histoires qu'ils racontent et aux protagonistes qu'ils sélectionnent en présentant à un public cible réceptif. Le public est composé de personnes non informées ou mal informées, prêtes à accepter toutes les informations erronées qui sont crédibles et à ignorer toute preuve qui remet directement en question ce qu'ils s'attendent à attendre et à voir, et où, comme Nichols 2017 a dit, Les gens ne se contentent pas de croire des choses stupides, elles résistent activement à un apprentissage ultérieur plutôt que d'abandonner ces croyances. Ce à quoi nous assistons ici, ce sont des acteurs caritatifs qui deviennent de plus en plus dépendants de pragmatisme instrumental et de ce que Dewey appelle l'assertibilité garantie, qui remplace le concept obscur de la vérité. Selon Dewey, la vérité et la fausseté ne sont des propriétaires que de l'objet qui est la fin, la clôture de l'enquête au moyen de laquelle elle était atteinte. Autrement dit, ce qui compte, c'est la nature du processus vérifiable de la vérité, à savoir qu'elle entraîne des conséquences utiles. Concrètement, cela signifie que la variable de l'expérience fondée sur le tourisme des guerres est devenue une constante, et à ce titre, la source ultime de connaissances. Mais Michael Polanyi a déclaré à juste titre qu'aucune connaissance ne peut être fondée sur une expérience pure. On ne peut pas se débarrasser de sa responsabilité morale en se cachant derrière un rôle ou une fonction. C'est précisément le rôle de chaque acteur qui renforce son statut d'agent moral. Et c'est de manière triple. Un agent moral est tenu responsable non seulement premièrement de ses actions intentionnelles, mais aussi, deuxièmement, à juste titre, des aspects accessoires de ses actions dont il aurait dû être conscient. Enfin, troisièmement, les agents moraux sont responsables bien que ce ne soit que partiellement de tout effet raisonnablement prévisible de leur action humanitaire. Comme McIntyre l'observe à juste titre, ce sont les deux derniers aspects où la complexion devient la norme. C'est ainsi que la détection de la corruption dans le secteur caritatif devient si difficile à repérer. À l'exception des exemples flagrants qui impliquent pour la plupart des inconduites financières. Ce qui est finalement négligé, c'est le début d'une vague de corruption qu'inonde les esprits et le cœur des victimes renouvelées. Pour résumer cette section, la scène caritative est criblée de trop nombreux Stefan Trofimovitch qu'on réussit à se créer une image d'expert et d'intellectuel sophistiqué. Elle ne compte pas seulement sur trop de Varvara Petrovna's calculatrices pour fournir l'argent, une plateforme et une connexion, mais surtout sur le monde numérique avec son public crédule qui les aide à renforcer leur réputation. Au final, au pays des aveugles, le borgne est roi. Le beau sauverait le monde. Maintenant que nous avons établi quelques raisons potentielles derrière l'échec de tant d'efforts humanitaires, toute une série de questions se posent à ce stade. La première est probablement celle-ci. Comment pouvons-nous sortir des cercles vicieux de l'impérialisme caritatif, des experts en crise autoproclamée et des récits de crise renouvelée soutenus par une assertibilité garantie? Il s'agit d'une question de grande portée que ne peut pas être examinée en détail ici. Au lieu de cela, je vais en délimiter la portée aussi précisément que possible pour éviter de poursuivre une réponse au-delà de toutes les limites. Toute la confusion sur la nature de la philanthropie, avec de ses nombreuses manifestations et ramifications, peut être attribuée à la confusion entre le mot humanitaire et éthique. Malgré la séduisante simplification de ce qui semble incontestable à la plupart d'entre nous, il est temps de les reconnaître comme une impasse. C'est peut-être troublant, mais s'accrocher à la conviction que l'altruisme pur est le seul fondement sur lequel repose tout engagement caritatif se heurtera à toute fin pratique à une impasse. Ne prenons-nous pas la philanthropie telle qu'elle est et ne la remplaçons-nous pas par quelque chose qui ne l'a jamais été? À la lumière de ce que nous avons déjà dit, j'espère que nous sommes tous d'accord maintenant sur le fait qu'un changement de paradigme est non seulement souhaitable, mais urgent. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous contenter de l'économie d'une aide humanitaire localisée qui ne sert que du bout des lèvres au bien commun. Nous devons de toute urgence développer un authentique état d'esprit non utilitariste au service du bien commun, un impératif moral de solidarité, bien que proportionnel aux limites structurelles et administratives du modèle d'organisation adopté. Ce qui est pratiquement nécessaire, c'est une théorie téléologique de la transformation sociale à la recherche du bien commun, du développement humain intégral et de l'harmonie sociale fondée sur une solidarité inclusive et collaborative. Par bien commun, j'entends bien public de la société dans son ensemble. Je cite maintenant, un bien qui est recherché non pour lui-même, mais pour les personnes qui appartiennent à la communauté sociale et qui ne peuvent réellement, efficacement poursuivre leur bien qu'en ce sein. Je cite Benoît XVI, 2009. Par développement humain intégral, j'entends le développement qui affecte chaque personne et l'ensemble de la personne humaine en tant qu'agent libre et égal dans la totalité de son être matériel, social, spirituel et éthique. Par solidarité inclusive et collaborative, je me réfère à la philosophie qui est centrée sur la personne et permet aux parties prenantes d'être artisans de leur destin, comme l'a dit avec éloquence le pape Paul. Merci. Merci. Trois principes directeurs. Afin d'atteindre ses objectifs, Radin s'est rendu compte qu'il devait adopter trois principes directeurs. Le premier principe directeur était d'accepter qu'il n'y avait pas de solution universelle. C'est une conclusion inévitable qui a abouti à la décision de Radin d'abandonner une stratégie humanitaire basée sur la reprise de solutions toutes faites et un vague impact social durable et timide. Les résultats ne sont pas une question d'algorithme simplement parce que les êtres humains sont imprévisibles. Radin a adopté une stratégie tournée vers l'extérieur et plutôt opté pour la durabilité communautaire. L'équipe a décidé à résister la pression de produire des histoires à succès rapide que nous font nous sentir bien, ainsi que notre public et nos supporters. Nous n'étions pas des anges travaillant avec d'autres anges dans un environnement parfait, et c'est pourquoi nous avions plus peur de l'échec. Nous avons réalisé que la durabilité de la communauté ne peut être atteinte qu'en diffusant une culture du travail, de la responsabilité personnelle et l'imputabilité. Et cela prend du temps. Les parties prenantes sont devenues les protagonistes et ont commencé à jouer le rôle principal au lieu d'être des acteurs de seconde rang. En bref, Radin est devenu un créateur d'opportunités visant à développer des communautés durables soutenues par des artisans stables, autonomes et responsables. Le deuxième pilier était à résister la tentation répandue de souligner l'impuissance et le statut victimaire de communauté. Radin a commencé à souligner les similitudes dans l'expérience humaine de la souffrance au lieu de se concentrer sur la différence accidentelle. Ce n'est pas seulement l'authenticité qui a conduit les habitants du village dont j'ai parlé plus haut sur la voie de transformation sociale, mais des vertus fondamentales telles que l'assiduité, la confiance, le courage et la compassion. Un leadership bienveillant est devenu le principe de différence entre l'organisation caritative anonyme et Aradin. C'était les deux régions et une personne qui se déplaçait régulièrement et transmettait ainsi un message clair à la communauté cible. La population locale devenait de plus en plus cynique alors que d'innombrables experts en crise autoproclamée défilaient dans leurs rues étroites et poussiéreuses et leurs camps de réfugiés pour prendre des photos et les interviewer pour ne plus jamais se présenter. Je peux découvrir moi-même quel était leur point de douleur quotidien et j'ai partagé leur frustration de manquer du strict nécessaire. J'ai même été menacée par les mêmes personnes corrompues que les accable depuis deux décennies. L'authenticité dans le secteur caritatif exige de l'exemplarité. Lorsque les gens souffrent, il ne suffit pas de faire preuve d'empathie et de compréhension. Ce dont ils ont le plus besoin, c'est de compassion et de modèle. Nous ne pouvons parler d'une leader compétente que lorsque nous avons affaire à un preneur de risques responsable qui n'a pas peur d'encourager la communauté cible à planifier et à conduire le changement transformateur souhaité tout en gardant un œil vigilant et une distance saine. Le troisième et dernier principe directeur était la nécessité de développer une culture de substitution au-delà de douloureux, ici et maintenant. Nourrie par la beauté et soutenue par sa nature transcendante. Il est indéniable qu'il peut exister des manières variées de percevoir le monde et de l'expérimenter. Mais il était également vrai que toutes les cultures ont un désir commun de rechercher et d'exprimer la beauté dans leur culture respective. Lorsqu'Aladin a décidé de choisir la voie de la beauté et de promouvoir une culture du beau au milieu de la violence, il était vite devenu clair que seul un attachement inconditionnel à la beauté pouvait sauver la culture. Le travail caritatif n'est pas une question d'éthique, mais un acte éthique basé sur l'esthétique, la réflexion et la communication. La préservation du patrimoine culturel requiert une personne capable de discerner la beauté, de recueillir des souvenirs et de transmettre des histoires, en particulier celles racontées par des femmes. J'ose dire que la capacité d'apprécier, de se souvenir et de transmettre sont les trois qualités indissolublement liées, nécessaires pour juger la crédibilité de nos histoires et de nos connaissances. Pour que les femmes dirigeantes relèvent le défi et répondent aux exigences d'un leadership authentique, elles doivent combiner la compassion avec la compétence indispensable de la narration. Car, je cite maintenant, Miller, il est important que les femmes partent de leur expérience et en particulier lorsque cela n'a pas de sens. Un exemple concret peut aider à y voir plus clair. L'une des batailles constantes que j'ai dû mener encore et encore était liée à mon profil de victime potentielle mais idéale d'une femme chrétienne de Moyen-Orient issue d'une minorité éthique persécutée. À la grande frustration de ceux qui essayaient de profiter de cette image stéréotypée, j'ai refusé de participer aux plaintes et aux lamentations. J'étais J'étais ailleurs l'une des très rares femmes directrices fondatrices à s'étenir au plus haut niveau de l'échelle dans une organisation caritative petite mais prionnaire. C'est une position délicate qui risquait de heurter l'organisation humanitaire à prédominance masculine et leur cercle associé de promoteurs et de donateurs. Mais je savais que ma mission était de raconter une histoire pleine d'espoir, quelle que soit la profondeur des ténèbres dans lesquelles nous, êtres humains, pouvons nous plonger. Nous ne faisons pas nos histoires, elles nous fabriquent et façonnent nos souvenirs pour faire partie de la mémoire collective passée et présente. À travers leurs souvenirs racontés, les femmes sont essentielles pour libérer des idées sur la communauté, l'identité et l'appartenance et deviennent ainsi le gardien ultime de la mémoire, du patrimoine et de l'humanité. Armée d'une hérité de la narration et chargée de la tâche de conserver de nombreux souvenirs précieux, je savais que la graine de notre héritage commun, agressé, ne pouvait pas mourir, mais seulement être enterrée pour un temps limité. Une histoire en guise de conclusion. Permettez-moi de partager avec vous mon histoire préférée et ainsi conclure ces réflexions. Vous savez peut-être que dans la seconde moitié du siècle dernier, de nombreuses familles juives ont dû quitter l'Irak, y compris la famille d'un petit garçon. Au moment où sa famille avait quitté le village où il était né et avait vécu jusqu'à l'âge de 16 ans, quelque chose de sinistre se produisit jusqu'à dans sa nouvelle école. Cet enfant fut la cible principale de humiliation, des punitions en raison de ses qualités. Ses parents l'ont alors exhorté à être patient et à apprendre à baisser la tête jusqu'à ce qu'elle parvienne à quitter le pays. Enfin, arrivé le jour, le petit garçon, qui devint rabbin plus tard, quitta l'Irak. Cependant, le précieux souvenir de son enfance heureuse dans son village bien-aimé ne l'avait jamais quitté. J'étais intriguée par l'histoire de ce rabbin juif, évoquée au passage par un parent âgé qui avait entendu parler de lui et de sa quête incessante pour retrouver ses amis d'enfance jusqu'à ce qu'il y parvienne. Cette histoire m'a tout de suite rappelé celle d'une femme irakienne qui cherchait elle-même des membres de la communauté juive qui vivait dans le village d'où était originaire sa famille, mais en vain. Ses connaissances parcellières se limitent aux histoires secrètes de sa grand-mère sur leurs voisins juifs. Elle se souvenait seulement que chaque samedi, son arrière-grand-mère demandait à son grand-mère d'aller aider leurs voisins allumaient la lumière et réchauffaient leur nourriture. Cela au péril de sa propre famille. Il n'aurait fallu qu'une brève mention par le fille de ce que la grand-mère lui racontait sur l'ennemi sioniste pour que toute la famille se trouve dans des cachots souterrains, sinon dans des fosses communes. Mais la grand-mère a refusé de laisser le souvenir de sa petite fille être façonné par le faux récit dominant dans l'histoire enseignée à l'école. En réponse, la petite fille était fermement déterminée à honorer cette confiance en tant que gardienne des souvenirs secrets de sa grand-mère. Nous savons que rien dans la vie est dû au hasard. Après ma première visite en Irak en octobre 2014, j'étais contactée par divers médias, dont une équipe de tournage juif qui cherchait des histoires d'Irak qui valaient la peine d'être racontées. Je n'ai perdu aucune chance de mentionner l'histoire du rabbin juif et de la fille à la recherche de sa pièce manquante de sa puzzle patrimoniale. En décembre 2014, j'ai eu la chance d'être invitée à visiter Israël pour la première fois pour donner un cours de courte durée. Lorsque je suis rentrée en contact avec le membre de l'équipe de tournage, j'ai entendu, à ma grande surprise, qu'il avait non seulement réussi à localiser le rabbin juif, mais s'était également arrangé pour que les filles le rencontrent sans qu'elles s'en rendent compte. Il n'y a pas de mots pour décrire le privilège d'assister à une rencontre aussi unique et de vivre le moment où le rabbin juif et sa femme ont rencontré les filles que le recherche depuis 40 ans. Malheureusement, je ne pourrai pas vous donner plus de détails par manque de temps, mais il y a probablement un autre détail mineur que pourrait vous intéresser particulièrement. Le village où est né le rabbin juif s'appelle Aradon. Le vieux cantor était ma grand-mère et les filles qu'elle cherche se tiennent en ce moment devant vous pour vous raconter l'histoire de beaux souvenirs secrets que sa grand-mère voulait qu'il garde en vie. En 2012, j'entrepris un voyage pour changer le monde, mais j'ai fini par être changée par l'extraordinaire beauté cachée du monde. Maintenant, je peux dire avec confiance qu'Aradon Charitable Trust et moi-même avons terminé le premier chapitre de notre mission. Ils sont maintenant prêts à écrire le second. Merci pour votre attention.
Merci infiniment. Merci infiniment pour cette réflexion qui se termine par un témoignage, alors que dans l'ordre de conception, vous êtes parti donc d'une expérience concrète sur laquelle vous pourriez peut-être nous dire un peu plus, et vous avez pu déboucher sur une réflexion d'ensemble sur la façon dont essayer de sauver quoi que ce soit, qu'il s'agisse de personnes ou de choses, peut être elle-même l'objet d'un sauvetage. D'abord l'objet d'un abordage par toutes sortes de corruptions dues à ce que vous appelez l'impérialisme caritatif et les experts, alors vous avez employé l'expression « pop-up », donc des experts qui poussent comme des champignons et qui se déclarent eux-mêmes experts afin de... pas nécessairement de porter secours aux gens dont ils disent se soucier, mais surtout pour faire leur propre publicité. Bien, est-ce que vous... s'il n'y a pas d'autres questions, je me permets... Alors, Monsieur Jean Béchler, et puis je poserai moi-même quelques questions. Oui, vous pouvez retourner si vous voulez. Vous pouvez retourner au pupitre.
Vous pouvez appuyer, ou sinon parler d'ici en appuyant sur le bouton.
Vous pouvez éteindre cette lumière. Micro.
Merci, oui.
Merci madame pour ce magnifique appel, si je vous ai bien compris, en faveur de la charité éclairée contre le caritatisme pervers. Alors, j'ai deux questions tout à fait innocentes et simplistes à vous poser. Je n'ai pas très bien saisi dans votre première partie où vous avez dénoncé l'impérialisme caritatif. Si c'était une corruption de quelque chose qui serait parfaitement légitime, ou bien si c'est intrinsèquement pervers. Donc, impossible à sauver. Il ne faut pas faire ça parce que ça n'est pas améliorable, et en particulier, parce que c'est la citation de Dostoïevski, pas la charité, mais l'aumône, si vous voulez, est perverti inévitablement. Donc, il faut laisser ça complètement de côté et passer à autre chose de radicalement nouveau que vous avez défendu dans la deuxième partie. Alors, cette deuxième partie, ce que vous voulez faire, si vous voulez, consiste, si je vous ai bien compris, la transmission aux intéressés d'une éthique qui leur permet, si vous voulez, de maîtriser leur destin, je dirais ça, de cette manière. Autrement dit, tout repose dans votre projet sur la pédagogie. Mais une pédagogie qui risque d'être corrompue aussi. Si le pédagogue dit « moi je sais, et donc écoutez-moi », et je me demande si, et c'est une question que je vous pose, si la solution ne serait pas, et vous l'avez vaguement suggéré, dans la demande des intéressés. C'est eux qui doivent manifester ce dont ils ont besoin et solliciter, si vous voulez, des avis, enfin, éclairés de la part de gens qui sont disposés à les aider. Est-ce que c'est à peu près ça?
Oui, c'est précisément le problème. Parce que les gens, les réfugiés...
Le mieux serait que vous retourniez là. Oui. Vous n'aurez à tourner le dos à personne. Sauf à nous, mais nous comptons pour du beurre.
Oui, c'est un problème. C'est le cœur du problème, que les gens qui souffrent sont infantilisés. Ce sont des gens qui souffrent. Leur fonction est de souffrir. On ne demande pas aux gens qui souffrent s'il y a quelque chose qu'eux peuvent faire. C'est un problème parce qu'on m'a dit, par exemple, quand j'étais en Israël, quelqu'un m'a dit, c'est incroyable qu'il y a des communautés ou d'organisations qui sont là, ça fait 60 ans. 60 ans d'aide, ce n'est pas possible. Elle m'a dit qu'il y a trois générations qui n'ont jamais travaillé. Pourquoi? Parce que l'organisation doit être là, durable, il y a des victimes. Et alors, les gens sont devenus des victimes. Leur fonction, c'est leur travail maintenant, c'est d'être victime. Et comme ça, l'organisation peut venir ici, raconter des histoires et faire du fundraising et tout ça. Et quand j'étais en Irak, c'était la même chose que les gens m'ont demandé. C'est pourquoi j'ai commencé à rentrer en Irak chaque 3 mois. Alors, de 2014 jusqu'à 2019, presque chaque 4 mois ou 5 mois, je suis rentrée en Irak pour voir le projet, comment se développe, et les gens ici. Et c'est que j'ai constaté qu'il y a vraiment des gens c'est comme un travail d'être victime. Même ils savent comment le faire pour prendre des photos, qu'est-ce qu'ils doivent dire. Mais ça ne marchait pas avec nous parce que je connais les langues, j'ai aussi pris le temps pour voir, pour découvrir aussi la structure de pouvoir dans un local. C'est pas qu'on va là-bas et demande aux gens, parce que c'est toujours les élites et les régions qui viennent raconter des histoires, mais c'était comme, je ne sais pas, c'est un réseau, devenu un réseau, où collabore une organisation, les deux régions, et il y a des victimes qui on amène toujours les gens pour voir cet endroit ou cette famille qui était en train de souffrir. Et on donne l'argent pour les gens comme ça. Mais on ne demande pas aux gens pourquoi, s'il y a quelque chose qu'ils peuvent faire, non. Et s'ils essayent de faire quelque chose, on l'arrête. Et ça, c'est très, très triste, et j'ai vu ça moi-même. Alors, c'est qu'on a commencé à Raden, aider les gens, mais sans publicité. Parce que je savais, si on savait qu'il y a une autre organisation en train d'aider les gens, on va les arrêter. Et maintenant, on a beaucoup de, on a 3-4 projets qui sont vraiment un succès, mais parce que personne ne savait que c'était nous qu'on était en train d'aider les gens là. Et comme ça, on travaille avec une famille après une autre, mais pas comme c'était impossible d'aider tout le monde. S'il y a une crise, oui, bien sûr. Au début de crise, bien sûr. Mais après, j'ai dit, après 6 mois, si le modèle continue, alors il faut faire l'alarme, sonner l'alarme, parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Je ne sais pas si c'est le oui.
Merci. D'abord, Raïm Corsia, puis Chantal Delsol.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame, merci pour cette conférence et vraiment merci pour les efforts de langue que vous avez faits. Je me disais, si je transposais, je n'aurais évidemment été incapable de le faire, peut-être en araméen, mais pas plus. Il y avait deux choses que je voulais vous dire. La première, c'est que c'était très touchant, vraiment, et que ce que vous avez dit sur les victimes qui s'installent dans cette situation, c'est quelque chose qu'on connaît, et en France, qu'on vient encore d'avoir des gestes du président de la République envers la communauté des harkis, dont on est à la 3, voire la 4e génération. Donc il y a vraiment une question qu'il faut poser, et pourtant c'est une tâche sur le pays, parce qu'on s'est mal comporté envers eux, vraiment. Et je le dis alors que j'ai eu le grand honneur d'être l'aumônier des armées, donc je sais le poids moral que ça a, mais la question n'est pas tant de notre rapport à eux que leur rapport à la capacité à faire des choses. Et moi, j'ai eu le grand honneur de servir des militaires, eux-mêmes fils de harkis, qui ont été d'immenses soldats français. Donc il y avait la possibilité de faire, d'autres ont fait le choix de s'enfermer dans cela. Et j'aurais aimé entendre sur cette question notre éminent confrère Jean-David Lévite, parce que j'ai le sentiment que quand même c'est une clé au Moyen-Orient, quand les camps de l'UNRWA persistent et en fait deviennent des abcès insupportables pour le Liban, pour l'État palestinien, enfin bref, ces camps, y compris d'ailleurs en Jordanie, on voit bien comment oui, vous avez utilisé le mot infantilisation d'une population à qui on ne peut plus dire honnêtement vous reviendrez, vous irez, c'est autre chose. Donc on ne peut pas parler encore de réfugiés 72 ans après, et notamment dans la relation entre le Liban et Israël, vous avez parlé de l'Irak, où on se prépare la même chose. Donc c'est une question essentielle, et je ne sais pas si notre confrère Jean-David Lévite acceptera de nous dire quelques mots, mais je sens que c'est quelque chose de très important. La deuxième, si vous me permettez, je voulais vous raconter une histoire, parce que ce que vous avez dit de votre engagement personnel était très touchant. C'est l'histoire d'un rabbin juif, lui aussi. Ça arrive souvent que les rabbins soient juifs. Et je vois même une certaine forme de racisme. Je me suis posé la question et j'ai trouvé que des rabbins juifs. Donc à un moment, il faudra peut-être qu'on ouvre un peu les choses. Mais en tout cas, celui-là est juif aussi. Et il dit à ses élèves, avant de mourir, « Quand j'étais jeune, j'avais la force et l'énergie, je voulais changer le monde. » Quand je me suis rendu compte, au bout d'années longues, que j'ai échoué, je me suis dit, je vais changer au moins mon pays. Alors j'ai essayé, je me suis battu, j'ai passé du temps, j'ai vieilli, j'ai perdu un peu mon enjouement, ma capacité à faire les choses. Et je me suis dit, j'arrête, je vais essayer de transformer mon village. J'ai essayé, puis j'étais fatigué, usé, vieilli, aurait dit un ancien Premier ministre. Et j'ai essayé de me transformer, et au moment de mourir, je dois vous dire que j'ai échoué. Qu'est-ce qu'on doit retirer de ça? Non pas un constat d'échec, mais que la plus grande difficulté, c'est de se transformer soi-même. Que si on se transforme soi-même, on peut ensuite être crédible pour transformer son village, puis peut-être son pays, puis peut-être le monde. Et qu'en fait, en sauvant un souvenir, vous enclenchez un mécanisme qui dit les mémoires des uns et des autres, des unes et des autres sont des mémoires importantes. Et ce que vous avez souligné est essentiel, parce que dans ma tradition familiale, mes parents viennent d'Algérie. C'est aussi quelque chose qu'ils connaissaient, où les musulmans et les catholiques venaient allumer les lumières Shabbat, porter le repas du samedi à la maison. Et ça crée une forme de grande proximité qui surprendrait, pour ne pas dire stupéfier, pour ne pas dire nierait les descendants de ces personnes aujourd'hui, si on leur disait ces personnes vivaient ensemble. Et donc je voulais vous remercier pour ça et vous poser la question des réfugiés.
Si vous voulez répondre. C'était plutôt
des réfugiés.
Oui,
qu'est-ce que je peux dire de réfugiés
parler de l'infantilisation des réfugiés dans leur pays.
Oui. Le réfugié. Parce qu'il y a, deux choses, non? C'est le réfugié et aussi le mémoire. C'est que j'ai trouvé. Oui, c'est infantiliser le réfugié, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, mais comme je parlais de Varvara Petrovna, non? Mm-hmm. Qu'il y a une. Une moule, tu dis comme ça, une moule où on doit s'adapter et comme ça on peut être dans ce moule. Tu ne peux pas être d'autre chose. Et aussi un réfugié, c'est un être humain et c'était pas une chose que va, c'est un autre quelque chose provisoire, c'était pas permanente. Il sait qu'il fait, qu'est-ce qu'on fait maintenant de l'organisation caritative, qui une fois réfugié, ou une fois victime, toujours réfugié. Et on déprive les personnes de vraiment d'être la personne qui était. Alors tu n'étais pas, tu ne peux pas t'imaginer d'autre chose qu'être des victimes. Et toutes les mémoires, et c'est pourquoi j'ai parlé de mémoire collective qui est très très importante, et des histoires, qu'on déprive les personnes de passer des mémoires et des histoires de leur vie à l'enfant et à la génération qui vient, et à la communauté. Alors il n'y a pas de communauté. On devient de personnes en besoin. Et si quelqu'un devient une personne de besoin, la seule chose que ça s'occupe, c'est de satisfaire le besoin qu'il a. C'est pour moi le danger le plus grand d'être réfugié. Alors, vraiment, c'était quelqu'un qui doit devenir une autre personne. Ce n'est pas quelqu'un qui a besoin d'une aide pour un temps limité, mais c'était devenu comme un client permanent qui reste là. Mais pour moi, c'est vraiment la mémoire et raconter les histoires qui est très, très importante. Et comme vous disiez, c'est comment changer le monde. Pour moi, c'était la même chose parce que j'avais beaucoup, beaucoup de difficultés pour les gens parce que ou on travaille comme toutes les organisations ou on part. J'étais toute seule avec les gens qui me supportaient, mais il y a une toute structure qu'on ne peut pas lutter contre une structure si énorme, si mondiale. Si, et ce ne sont pas des gens, c'est le problème, ce ne sont pas des gens qui sont méchants. Pas du tout, c'est le problème. Parce que s'il y a des gens qui sont méchants, c'est très facile à dire que ce sont des gens méchants. Mais ce sont vraiment des gens qui sont là pour aider. Ce sont des idéalistes pour aller là. Mais une fois dans le monde caritatif, c'est comme un rôle. Alors on doit assumer ce rôle, tu ne peux pas rester là. Et le réfugié aussi. Alors c'est une structure que les réfugiés doivent être comme ça, une personne qui était là pour aider doivent être comme ça, il y a des critères, et c'est une structure, et on ne peut pas faire d'autre chose, mais
Comment le faire? Oui, bien sûr, pour nous transformer. Mais transformer, ce n'est pas seulement pour dire, oui, je vais changer moi-même et je reste ici. Mais aussi pour trouver les gens avec qui on peut travailler. Le problème aussi avec le modèle caritatif et aussi parce qu'on cherche des résultats immédiats. Mais dans un monde comme ça, on ne peut pas donner des résultats comme ça, immédiats. Et d'Afghanistan, par exemple, je me rappelle d'une personne qui m'a raconté d'une grande organisation qui est là en Afghanistan. Et il a dit, je me rappelle très bien, elle m'a dit, tu sais quoi, qu'est-ce que tu dois faire? Par exemple, dans notre organisation, on a fait un film magnifique, très bien produit, professionnel, d'une femme qui a commencé son projet. Et voilà, je vais partout montrer ce film et j'ai beaucoup de succès. Et tu dois faire la même chose. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'elle est devenue de cette femme? Elle a réussi, elle a fait quelque chose. Elle a dit, je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Mais vraiment. Et ce n'était pas une personne méchante, pas du tout. Pas du tout. C'est une dame respectable. Et elle était là pour me donner quelques advices pour m'aider. Comment faire de Aradin une organisation de succès comme cette organisation. Mais vraiment, elle a dit, c'est pas important parce qu'on est là pour donner l'aide et après on part, on peut pas rester là pour tout le temps. Et je sais pas si c'est une réponse.
Merci. Oui, Jean-David Lévit, vous avez quelque chose à dire?
Non, puisque le grand rabbin me demande d'ajouter un mot, je le fais volontiers sous votre contrôle, madame. La question était en fait celle des réfugiés palestiniens, j'imagine.
Ah oui.
Et s'ajoute à tout ce que vous avez dit magnifiquement la dimension politique. C'est la question d'Israël et de l'État palestinien. Y aura-t-il un État palestinien? Et en attendant, tous les États de l'environnement veulent maintenir les Palestiniens qui sont chez eux dans le statut de réfugiés, parce que s'ils y renonçaient, ils renonceraient de ce fait à soutenir l'espoir d'un État palestinien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point concerne le Liban en particulier, parce que vous avez au Liban une cohabitation entre les chiites au sud, les sunnites un peu partout, et les chrétiens dans la montagne chrétienne et au nord. Et les institutions sont fondées sur cet équilibre, d'abord démographique et politique. Si les réfugiés palestiniens qui sont installés dans des camps au Liban et qui sont des sunnites sont intégrés dans la comptabilisation des populations sunnites du Liban, vous changez l'équilibre démographique qui a déjà beaucoup changé, malheureusement, avec les conflits et le départ progressif, surtout des chrétiens. Et les chiites sont montés en puissance grâce au Hezbollah, politique et militaire. Si vous faites basculer les réfugiés palestiniens sunnites du côté des Libanais sunnites, vous changez complètement la donne. C'est évidemment ce que ni les chrétiens ni les chiites ne veulent aujourd'hui au Liban. Alors on pourrait continuer le parcours des différents pays, mais la situation des réfugiés palestiniens est évidemment un cas à part, si je puis dire, depuis 1948 et jusqu'à aujourd'hui. Mais je ne veux pas interférer dans votre magnifique conversation avec mes confrères.
Oui, merci. C'était vraiment les choses que j'ai remarquées quand j'étais en Israël. C'était vraiment deux semaines, je crois, dix jours. Parce que je croyais que j'arrive là et il y a beaucoup de militaires et tout ça. Mais pas du tout. Et je suis allée jusqu'à Gauche Relaf. Il y a des musulmans et des chrétiens et des juifs qui travaillent ensemble.
Et alors, si je peux rajouter un point sous le regard de notre président, moi, je ne suis pas pessimiste sur l'avenir. Je suis très frappé et je participe à une petite association qui a été créée par des Palestiniens d'Israël en liaison avec des Palestiniens de Gaza et des Émiratis et même des Saoudiens pour dire on en a assez d'attendre la paix, elle ne vient pas. Donc on va créer ensemble nos start-up. Alors je leur ai dit venez à Paris, on va en parler ensemble. Et je les ai emmenés à l'UNESCO chez Madame Azoulay, parce que je lui ai dit, cher ami, c'est un peu votre vocation d'aider à la paix par la culture. Et donc, on a eu pendant plusieurs jours un brainstorming assez passionnant. Et ces Palestiniens d'Israël, qui en ont marre d'attendre la paix, sont éduqués, ambitieux. Il y avait, alors, leur présidente, leur coprésidente, puisque un président israélien et un israélien ou une israélienne palestinienne, elle m'a dit, moi, je suis plusieurs fois minoritaire parce qu'elle est palestinienne en Israël, de religion chrétienne, orthodoxe. Et alors, elle a reçu une formation formidable, elle a des tas d'idées, etc. Et on est en train de créer des ressources en électricité à Gaza grâce aux panneaux solaires. C'est pas très difficile, mais encore fallait-il trouver les moyens pour le faire. Et il se trouve qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de milliardaires qui sont prêts à soutenir des bonnes idées. Et donc voilà, c'est le genre d'initiative qui permet de sortir de ce que vous avez décrit comme l'enfermement dans cette aide, etc. Mais ce qui m'a frappé, c'est que ce sont des jeunes. Et ces jeunes veulent imaginer un autre avenir. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas seulement des Émiratis, mais vous avez des jeunes saoudiens. Et donc, on peut peut-être être un peu optimiste.
Merci. Oui, oui, mais par exemple, c'est une petite histoire de quand j'étais en Israël. C'est que je venais de découvrir qu'il y a beaucoup de gens jeunes palestiniens qui habitent à Jérusalem qui ne parlent pas l'hébreu. Et c'est une fille qui m'a demandé, il a dit, oui, j'avais une offre de travailler à la municipalité, mais je ne parle pas l'hébreu. Et c'est un des premiers projets qu'on a décidé pour les donner d'argent, parce qu'elle ne pouvait pas elle-même avoir d'argent, parce que ça dépend de l'organisation. Et ce n'était pas bien pour elle, comme palestinienne, pour aller s'inscrire, pour apprendre l'hébreu. Alors, on a donné une bourse, tu dis comme ça ?
Oui.
Oui, une bourse pour étudier l'hébreu. Et elle a fini le cours d'hébreu, et là maintenant, elle est en train de travailler. On ne peut pas, malheureusement, continuer en Israël avec le projet là, parce qu'on avait bien sûr la priorité en Irak, mais c'était là où je venais de découvrir le problème en Israël. C'est vraiment le réfugié, mais ce n'est pas les gens, mais il y a de choses structurelles qui sont des impédiments de s'intégrer et se communiquer.
Merci. Chantal Delsol.
Merci, Monsieur le Président. Oui, juste un mot. La charité, finalement, et la tendance de la charité est d'être impérialiste. Je pense que c'est une tendance humaine assez générale. La preuve, d'ailleurs, c'est que dans les textes, les grands sociologues qui ont étudié ça, comme Malinowski ou Mauss, dès qu'il y a un don, il y a un contre-don. Dans toutes les sociétés, y compris les plus primitives, ce qui montre bien que s'il y a un don sans contre-don, nous avons une forme d'impérialisme. C'est assez logique finalement. Enfin, c'est logique. On pourrait dire que c'est la condition humaine. Et puis, du point de vue de ce que vous avez dit du statut de victime, c'est qui est très intéressant. Le statut de victime qui est devenu une fonction, un métier, c'est un petit peu ce qui nous arrive avec les idéologies actuelles. C'est-à-dire qu'on se trouve devant une sorte de retournement à la Thucydide, vous savez, où la lâcheté devient prudence, la brutalité devient courage, et finalement, la victime devient un héros. C'est une sorte de retournement fâcheux qu'on pourrait appeler une perversion.
Oui, c'est vrai. Oui, les charités, l'impérialisme. Mais pour moi, c'était ce que je venais de découvrir. C'était vraiment, je ne sais pas, que c'était une mentalité et c'était fait par dessin. Tu dis comme ça, dessin, by design, oui. Avec intention. C'est pas seulement qu'il y a de données et c'était des choses normales qui arrivent dans le monde parce que comme je dis, on travaille, on n'est pas des anges qui travaillent avec des anges, mais dans le monde caritatif maintenant, elle est devenue quelque chose qui n'était pas l'intention de personne, je crois. Je ne sais pas comment elle était devenue comme ça. Et c'était vraiment devenu une structure impérialiste, mais c'est très difficile à dire ça, parce que ce sont des gens qui sont très bien, qui sont en train d'aider d'autres personnes. Alors comment tu peux dire à quelqu'un qui va au pays très dangereux, risquer la vie pour aider les gens là, et après tu dis c'est un impérialiste qui est là. Mais des choses que j'ai rencontrées, par exemple la première fois quand j'étais arrivée en Irak, c'était octobre 2014, alors c'était vraiment tout frais, toutes les choses qui s'est arrivé en Irak. Et on était en train de conduire et tous les gens qui sont étaient en train de dormir dans les rues et partout. Et j'étais invitée par une amie que j'ai rencontrée en Cambridge pour boire quelque chose. Il a dit, ah, quand tu arrives, tu viens avec nous pour comme ça. Il y a d'autres gens, d'autres organisations mondiales qui sont là. Et la première chose, c'était, j'ai demandé aux personnes qui devaient m'amener à cette place, le restaurant. Et il a dit, oh, tu vas à ce restaurant, mais c'est le plus chic ici. J'ai dit, pardon, mais ce n'est pas moi, j'ai seulement pour aller rencontrer quelque chose. Il a dit, mais trop cher, mais même pour une glace, pour un verre de l'eau, c'est 8 dollars ou 9 dollars, tu vas par là. J'ai dit, j'étais très, très gênée parce que je venais là pour aider les gens. Et après, c'était la première chose que je leur disais, c'est aller à un restaurant très chic. Et j'ai dit, non, c'est seulement pour 10 minutes pour dire bonjour et après je rentre. Je suis allée et c'était vraiment, c'est le choc pour voir tous les gens qui sont en train de dormir dans la rue avec leurs enfants. Et je rentrais dans ce restaurant et c'était, je suis désolée, comme Las Vegas. C'est la musique. C'était comme un autre monde. Et les gens là, qui ce sont aussi une amie à moi et l'autre gens là qui sont très gentils, ils sont là. Était en train de manger des choses exquisites, c'est spécifique de l'Irak, à Moscou, et c'est vraiment. Il a dit, tu veux prendre un cachet? J'ai dit non, merci. Et j'ai resté vraiment 10 minutes, et après je suis partie. Mais c'était vraiment pour moi le choc, pour dire, oui, il y a quelque chose que, bien sûr, on est là, c'était dangereux. On doit aller aux places qui sont sûres, qui sont propres, mais c'est une autre chose d'aller
toujours aux hôtels 5 étoiles, le meilleur restaurant pour aider les gens. Pour la personne qui m'a amené là, c'était vraiment quelque chose que j'ai dit non, tu ne fais pas. C'était une seule fois, mais c'est pas les choses que je faisais. Et je ne sais pas comment les gens peuvent combiner les deux choses. Tu sors du restaurant et tu vois la misère. Et on entre le restaurant, c'est notre monde. Alors, je ne sais pas comment, ce n'est pas une étude impérialiste. Je ne sais pas quelle description je dois donner à cette situation. C'était vraiment quelque chose qui va rester toujours avec moi. Et voilà.
Merci. Jean-François Mattei.
Merci, Monsieur le Président. Madame, j'ai été passionné par votre intervention, car votre intervention a parlé beaucoup d'humanitaire et je n'avais pas perçu dans le titre que vous aviez donné que vous alliez aborder le problème de l'humanitaire, parce que sauver l'héritage chrétien au Moyen-Orient, je ne pensais pas du tout aborder l'humanitaire. Alors, je voudrais faire quelques commentaires là-dessus et avoir votre avis. D'abord, vous avez bien parlé d'un héritage culturel. Et c'est vrai, parce que vous localisez l'endroit au Moyen-Orient, et que c'est possible, mais est-ce que vous diriez la même chose si vous étiez à la Fédération internationale de la Croix-Rouge, intervenant en Afrique, intervenant en Orient, intervenant dans des pays de cultures extrêmement différentes? Il est difficile pour des humanitaires de pays et de cultures différentes de sauver l'héritage culturel du pays dans lequel on va. Donc ça, c'est un premier point, parce que je ne suis pas certain que l'humanitaire concerne le culturel, même si ça me choque de le dire, parce que on est là surtout pour sauver le physique des gens et leur permettre de retrouver leur vie. Donc, évidemment, on respecte leur culture. Mais quand on est catholique, chrétien, et qu'on est dans des pays qui sont soit animistes, soit bref, on ne peut pas les aider dans une culture qui n'est pas la nôtre. Ça, c'est le premier point. J'aimerais avoir votre commentaire là-dessus. Le deuxième point, c'est que vous dites dans votre texte, et je vous félicite d'avoir parler comme vous l'avez fait dans une langue qui ne vous est pas familière, parce qu'on voyait bien quand même ce que vous vouliez dire. Vous avez dit « pas de confusion entre l'humanitaire et l'éthique ». Alors là, j'ai un peu sursauté, parce qu'a priori, je pensais le contraire. Je pense que vous avez probablement raison, il ne faut pas les confondre, mais néanmoins, de mon point de vue, l'éthique met l'humanitaire à l'épreuve. Car, et je vous rejoins totalement, j'ai vécu au début de ma présidence de la Croix-Rouge, parce que j'ai travaillé dans le mouvement Croix-Rouge pendant 9 ans et à la présidence de la Croix-Rouge française, j'ai découvert avec stupéfaction exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire les experts autoproclamés arrivant dans les pays totalement étrangers en disant « mais on va faire ça, on va faire ça, c'est le bien ». Qu'il faut faire comme de telle manière, et les autres, les autochtones ouvraient des yeux écarquillés parce que naturellement, ça n'était pas du tout comme ça qu'ils voyaient les choses. Et donc, ça m'a amené, après l'expérience dans différents pays africains et en Haïti notamment, je me souviens très bien que le Novelliste, qui est le journal principal en Haïti, avait fait un gros titre en disant « Haïti devient la république des ONG, c'est-à-dire des organisations non gouvernementales. » Et donc, j'avais passé une semaine à m'entretenir avec l'intelligentsia et essayer de comprendre. Manifestement, on était dans ce que vous avez décrit. Et c'est pour ça que je pense que si on ne peut pas les confondre, l'éthique
met à l'épreuve l'humanitaire pour respecter l'autonomie des gens. Vous le dites aussi très bien, il faut qu'ils soient l'acteur de leur vie, vous dites de leur destin, ce qui revient à peu près au même. Et ils ne veulent pas être assistés selon quelque chose qu'ils ne comprennent pas. On a vu l'épidémie d'Ebola en Afrique, en Guinée équatoriale, la Guinée forestière. On a essayé d'intervenir pour Ebola, on s'est fait accueillir à coups de fusil et à coups avec des flèches, tout simplement parce qu'on ne faisait pas ce qu'ils attendaient qu'on fasse. Alors, je n'insiste pas sur le détail, mais pour vous dire que l'autonomie, la bienfaisance, c'est quand même les gens qui sont dans la difficulté qui savent les premiers définir ce qui leur ferait du bien, et pas l'humanitaire qui arrive avec sa science toute faite et traditionnelle. Je pourrais très facilement encourir les risques, et je ne m'y risquerai pas donc, de dire celui qui raconte des histoires pour se faire valoir, etc. Je trouve quand même que des exemples vécus bien ciblés permettent aux gens de comprendre les écueils sur lesquels il ne faut pas tomber. Et puis sur la justice, je n'insiste pas, la justice distributive bien sûr, il y aurait beaucoup à dire. Je terminerai sur la corruption. Pourquoi est-ce qu'en 2010, après le tremblement de terre, je veux dire la terre entière de pays développés a débarqué à Port-au-Prince et s'est étendue sur le pays avec des flots d'argent. Et le pays aujourd'hui est encore plus pauvre qu'avant parce que la corruption, par tous les moyens, s'est imposée. J'ai vécu ça aussi dans les pays africains où l'argent donné par l'Organisation nationale, l'Organisation des Nations Unies, distribué de l'argent pour lutter contre le sida, les 9 dixièmes étaient retenus au passage dans les gouvernements. Et donc, moi, là, ce sont plusieurs questions que je soulève. Vous n'êtes pas obligé de répondre à tout, naturellement, mais je voulais partager les soucis que j'avais et que, tant qu'il y aura de la corruption, en tout cas, je ne crois pas que l'humanitaire pourra être réellement efficace à grande échelle. Alors, je voulais juste que vous réagissiez peut-être sur 2-3 points. Merci beaucoup.
Pour la question de le patrimoine culturel, pour moi, pardon, oui, pas rien. Ça va maintenant? Oui. Pour moi, c'est pas l'aide qu'on doit donner quand il y a une crise. S'il y a une crise, le premier 3 mois ou 6 mois, oui. Parce que les gens sont choqués, ils ont besoin. Oui, on ne peut pas être là pour parler de culture, l'art et tout ça. Mais le problème pour moi, c'était de l'aide prolongée, qui prend beaucoup de temps et qui devient une constante. Ce n'est pas une variable, ce n'est pas quelque chose de temporaire, mais qu'elle reste toujours là. Et ça, c'est très important pour aider les gens de penser à ce qui est très important pour eux. Parce que, comme j'ai dit, ce ne sont pas seulement des réfugiés, ce ne sont pas seulement des victimes, mais ce sont des personnes et on est là pour les aider de reprendre leur vie normale. Et la culture, et l'art, et la littérature, et tout ça, c'est très important. L'éducation aussi, c'est très important. On ne peut pas le laisser jusqu'à que tous les problèmes sont résoudre. Non. Parce que sinon, on a le problème qu'on a maintenant. Ça, c'est pour dire quelque chose de très bref. Pourquoi c'est pas seulement... oui, le Croix-Rouge est là, mais si le Croix-Rouge est là après 9 ans, pour moi, il y a un problème. Oui, de temps en temps qu'il y a une crise, oui, mais que le Croix-Rouge reste là, l'UNESCO reste là, je ne sais pas, Radin reste là pendant 20 ans, sans sauver aucun problème, mais seulement pour être là, pour aider un problème qui est toujours là après 20 ans, pour moi, c'est un problème très, très grand. Et c'est pourquoi je dis, il y a beaucoup de gens qui croient que parce que je suis là pendant 3 ans à Haïti, je suis une héros, je suis quelque chose, je suis une personne qui est véritablement oui, éthique et magnifique, et je viens toujours avec des histoires que je raconte et faire du fundraising. Mais, on ne peut pas, parce que même en Irak, j'ai essayé avec les gens que je connais pour leur dire il faut faire attention. Ce sont vraiment des choses qui ne sont pas vraies. Mais elle ne veut pas, elle ne veut pas changer d'avis parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Ils sont d'autorité et voilà. Et le troisième partie de
obligé peut-être d'aborder tous les sujets. En tout cas, je veux vous dire que je partage complètement ce que vous venez de dire. Et je regrette que lorsque je me suis opposé à la plupart des humanitaires qui pensaient que l'humanitaire, c'était l'urgence, puisque j'ai même eu à m'expliquer devant la Cour des comptes en disant « Vous avez reçu de l'argent à propos de l'urgence du tsunami et vous avez construit des maisons ». Et j'ai dit, mais l'urgence, oui, mais après.
Oui.
Il faut les aider à reprendre leur vie. Et je n'avais pas à l'époque l'argument culturel. Et c'est ça que vous m'avez apporté. Alors, je ne sais pas comment j'aurais pu l'utiliser, mais vous m'avez apporté ça et je crois que c'est important.
Et la corruption, pour moi, ce n'est pas la corruption nationale, mais la pire forme de corruption, c'est la corruption de gens normaux, de gens ordinaires. Si les gens locaux deviennent corrompus, c'est le pire. Parce que s'il y a une structure, si le président est corrompu, mais les gens non, et ça que je voyais, parce que je croyais que c'est la structure nationale très corrompue, mais ce qui est vraiment choquant, c'est comment l'aide à, je ne sais pas si c'est directement ou indirectement, mais il y a un lien très clair entre l'activité caritative et la corruption. Et même, il y a quelqu'un qui voulait venir, en Europe avec cette idée. Il avait 29 ans. Et pour lui, c'était « Ah, je vais arriver là, travailler 2 ans, et après je reste. Je vais reçu de l'argent de la gouvernement. » Et je lui disais « Mais tu peux vivre jusqu'à 80 ans. Et tu restes pendant 60 ans en train de recevoir d'argent de la gouvernement et tu ne fais rien. » Pour eux maintenant, c'était vraiment venir ici et pas travailler et avoir l'argent. C'est pas seulement parce que maintenant, avec l'organisation d'aide, c'est pas pour toujours. Oui, il y a toujours quelqu'un. Mais on doit avoir, parce qu'elles ont une mentalité maintenant d'avoir, je suis une victime, alors j'ai le droit d'avoir l'argent. Et si on crée une mentalité comme ça, et après, si on a beaucoup de gens qui viennent avec cette mentalité, c'est vraiment, on a des problèmes maintenant, mais ça ne vient pas comme ça, mais c'était pendant des années qu'ils étaient en train de se faire.
Merci. Jean-Robert Pitt a demandé la parole.
Merci madame. Juste, j'avais plusieurs questions, mais comme l'heure avance, je vais me limiter à une seule question, peut-être concrète. Nous savons que la vie des chrétiens d'Orient est très très difficile, que beaucoup ont émigré, continuent à émigrer, soit vers les pays d'Europe, soit vers les États-Unis ou ailleurs. Est-ce que vous pensez que dans les années qui viennent, certaines oasis resteront habitables et agréables pour les chrétiens d'Orient, que ce soit en Jordanie, au Liban, je ne sais pas, en Israël, vous avez évoqué Israël, aux Émirats arabes unis, parce que malheureusement au Pakistan, en Irak, en Égypte, la situation est de plus en plus dramatique. Alors pardon, ma question est très concrète par rapport aux grands principes que vous avez évoqués, mais je crois que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les Français.
Oui, et aussi en Irak, on aime beaucoup les Français parce que les Français vont pour les chrétiens en Irak. Je crois que le problème pour les chrétiens, ce n'est pas seulement pas parce qu'ils se sont ciblés, mais ils ont perdu leur rôle comme des gens qui peuvent amener les gens vers les uns les autres. Et même c'est quelque chose que je, par exemple, même en Israël ou en Irak, par exemple, en Israël, pour moi, c'était une question pourquoi le chrétien ne sont pas là pour amener le musulman et le juif vers et faciliter la communication entre les deux, parce que on n'est pas des ennemis comme chrétien, on peut pas avoir d'ennemis comme chrétien. Alors les musulmans ne sont pas d'ennemis et les juifs non plus. Et le problème des chrétiens de Moyen-Orient, parce que ma grand-mère, la génération de ma grand-mère, ont souffert beaucoup, mais elles n'ont jamais perdu le sens de mission qu'on a comme chrétien, qui était là pour... la première chose, c'était pour pardonner. Parce que pour nous, c'est... Pardonner, c'est le premier pas pour donner une autre chance aux gens. Et même pour les musulmans, par exemple, j'étais au nord d'Irak, et ce n'est pas toujours facile pour le chrétien au nord d'Irak, mais ce n'était pas très difficile aussi. Il y a des gens qui sont vraiment de bonne volonté, qui aiment les chrétiens, et ils font... mais c'est le problème. Quelqu'un m'a dit, un monsieur kurde, qu'il m'a dit, maintenant on a un problème que les jeunes ne veulent pas communiquer avec les gens qui sont d'autres religions, d'autres communautés. Et il a dit, les chrétiens ne sont pas là, même les chrétiens ne sont pas ouverts. Alors les musulmans savent qu'il avait des problèmes là, mais malheureusement, nous chrétiens, nous sommes devenus des victimes. Alors maintenant, ma grand-mère, la génération de ma grand-mère et de mon père, par exemple, ma grand-mère a perdu sa maison deux fois. Mais elle a jamais eu la mentalité d'une victime. Jamais, jamais, jamais. Mais maintenant, si on va dans le Moyen-Orient, malheureusement, avec toutes les difficultés, mais on a la mentalité qu'on est victime et on doit partir, il n'y a pas un autre... On n'a pas de source d'espoir en nous. On cherche des sources d'espoir par ailleurs.
Et donc vous voulez dire que les chrétiens vont tous partir parce qu'ils ont perdu presque la foi en eux-mêmes.
Oui.
Donc il n'y a plus d'oasis au Proche-Orient, là, même les pays que j'ai évoqués.
Oui, il y a des initiatives, mais ils ont des initiatives, c'est de l'élite. Ce sont des choses que... pour moi, ce que je viens de découvrir, c'est vraiment les gens qui doivent changer les choses. Ce n'est pas seulement que le patriarche ou l'évêque ou le rabbin ou l'imam qui doivent changer les choses, mais ce sont les gens. On n'est plus des gens comme ma grand-mère, parce que les gens comme ma grand-mère ont changé notre vie. Et c'est que je veux aussi de changer les vies de la génération qui vient. Mais pour nous, c'est très rare maintenant de trouver quelqu'un qui a cette mentalité avec toutes les difficultés. On a perdu ce sens de mission qu'on a.
Est-ce que vous avez l'espoir de venir habiter de nouveau dans votre pays?
Oui, c'est pourquoi je suis... Vous pouvez imaginer quelqu'un comme moi de partir toute seule en Irak en octobre 2014. Pour ma famille, c'était, tout le monde croyait que je suis tout à fait folle. Mais comment tu peux faire ça? Et pourquoi tu penses que tu vas changer le monde? Mais il faut commencer quelque part. Parce que j'ai reçu une mission de ma grand-mère. Et ça, j'ai essayé de planter de l'espoir dans le cœur des gens que j'ai rencontrés. Parce que sinon, on est toujours là pour dire, oh, le pauvre, comment je peux vous aider avec de l'argent avec... Mais c'est le problème maintenant avec de... Oui, c'est vraiment cette mentalité de victime. On doit arrêter avec cette mentalité de victime. On n'est pas de victime. Il y a de circonstances qui sont toujours là. Maintenant, oui, on voit... que c'est très, très, très difficile. Mais comme je disais, c'est la génération de ma grand-mère et arrière-grand-mère, ce n'était pas plus facile que maintenant.
C'est les femmes, toujours.
oui, mais oui, ma grand-père, parce qu'elle est décédée quand j'étais petite, et voilà. Oui. Oui, mais je crois que les femmes sont, oui, elles ont un rôle très très important. Oui.
Merci. Éventuellement, peut-être Chaim encore. Non. Bien. J'aurais aimé moi-même vous poser une question. Enfin, il est juste 5 heures. Non, simplement, ce qui m'a fait m'adresser à vous. Enfin, outre le fait que vous m'aviez invité à Cambridge il y a déjà quelques années, c'est que l'association dont vous vous occupiez, Aradin, le Jardin d'Éden, c'est vous qui m'avez appris que ça voulait dire ça en syriaque, s'occupait avant tout justement de sauver, c'est le thème de l'année, le patrimoine matériel. Alors que bien entendu, la première idée qui vient à l'esprit, c'est de venir au secours des gens, hein, des gens de chair et d'os. Bon. Et vous m'avez expliqué à l'époque déjà qu'il y avait déjà beaucoup d'associations qui s'occupaient de venir en aide aux gens de là-bas, aux chrétiens en particulier, qui étaient particulièrement menacés, et qu'il fallait quand même sauvegarder les vieux livres, les icônes, les manuscrits, les statues, les bâtiments, enfin toutes des choses matérielles. Et dans votre exposé, vous avez dit très rapidement que finalement c'est l'État islamique qui vous a donné raison en visant, enfin, non seulement en tuant des êtres, des personnes, mais aussi en rasant le maximum, en brûlant enfin, le maximum de ce qu'il pouvait donner à la mémoire chrétienne de ces lieux un ancrage concret. Un petit peu comme les Azéris sont en train de raser les églises du Karabakh, du Haut-Karabakh, et de les remplacer éventuellement par des mosquées, mais enfin, en tout cas, de viser aussi ce qui est matériel. Et c'était important de montrer, vous l'avez fait d'ailleurs, mais un peu rapidement, que l'identité culturelle a besoin de points d'ancrage concrets, de choses que l'on peut voir, toucher, entendre, dans lesquelles on peut vivre, il s'agit de bâtiments, et ainsi de suite. C'est ce qui m'avait semblé tout à fait intéressant, en tout cas d'unique dans ce que vous faites. Et bon, vous avez montré comment les deux sont liés, puisque vous m'avez raconté également que vous vous intéressiez à des gens qui voulaient trouver du travail sur place pour rester là où on aurait tellement, où certains auraient tellement souhaité les chasser. Donc je vous remercie infiniment.